en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Président, surtout merci cher François. Au fond, vous me donnez rendez-vous, nous nous donnons rendez-vous en 2045 et je veux bien prendre le pari. Sommes-nous détestés ? Qui, nous ? Les intellectuels, les chefs d'entreprise, les responsables publics, les leaders d'opinion ? Oui, à l'évidence. Par qui ? Par une longue cohorte qui va d'intellectuels parmi les plus reconnus, j'y reviendrai, jusqu'au tréfonds de la société, c'est-à-dire aux troupes de ce mouvement grandissant qu'on appelle le populisme. Méritons-nous de l'être ? En partie. Mais pour quelles raisons ? À coup sûr, pas celle de nos ennemis, mais pour d'autres que nous occultons parfois trop volontiers. Et c'est au fond ce fil-là que je voudrais suivre avec vous pour ouvrir le débat que nous aurons, puisque je pense qu'il y aura peut-être quelques échos divergents. Au fond, derrière le populisme, il y a le peuple, et le peuple, c'est à la fois le concept le plus omniprésent et peut-être le plus impensé de notre histoire. Le peuple de la royauté, le peuple du mythe révolutionnaire, le peuple napoléonien, le peuple dit de gauche et le peuple dit de droite, le peuple du Parti communiste, le peuple de France, face au peuple gaulliste du RPF, Rassemblement pour le peuple français, c'est rare le mot « peuple » dans l'intitulé d'un parti politique. Et en réalité, il y a le peuple des populistes. C'est quoi le peuple des populistes ? C'est le peuple qui est partie prenante d'une équation qui est de dire que le pays est partagé entre le peuple contre les élites. Alors, ceci peut aboutir à des situations ubuesques, tels les commentaires qui ont suivi le référendum de 2005 ou des journaux de grande qualité ont titré « La victoire du peuple sur les élites ». Si les élites représentent 45% d'un pays, quel haut degré de démocratie et de démocratie égalitaire ? Donc le peuple, en réalité, d'une certaine façon, ce peuple-là n'existe pas. Il n'existe pas, mais j'y reviendrai, c'est une petite musique présente dans le débat français depuis le traité de Maastricht, en fait, et qui est passé à travers l'élection de 1995, le référendum de 2005, et qui est prégnant dans les sujets politiques d'aujourd'hui. Petite musique depuis Maastricht et petite musique des élections de 85 à l'initiative d'un homme politique que beaucoup d'entre vous, je crois, aimaient, ou certains d'entre vous que j'ai reconnu et que d'autres, même en désaccord, respectaient, c'est-à-dire Philippe Séguin, avec lequel, au moment de la campagne de 95, nous avions signé un ouvrage qui s'appelait « Deux France ». Et en effet, « Deux France ». Et c'est Philippe Séguin qui a lancé l'idée, en effet, qu'il y avait une pensée unique, dont il m'avait fait la grâce d'être le représentant emblématique dans la campagne de 95, pensée unique qui était l'apanage des intellectuels et qui donc prenait de front le peuple tel qu'il était. Mais venant d'un personnage intellectuellement construit, il y avait en réalité une matrice idéologique très claire, et cette matrice s'est très vite reconnue dans un clivage qui a été mis en exergue en fait par quelqu'un proche de lui, au moins idéologiquement, qui est Régis Debray, qui est l'affrontement dit des républicains et des démocrates. Quel est l'affrontement des républicains et des démocrates ? Pour les républicains, la démocratie, c'est le suffrage universel, point à la ligne. Pour les démocrates, la démocratie, c'est le suffrage universel, plus le jeu des pouvoirs et contre-pouvoirs. Ici, la mitoyenneté avec l'Académie française interdit de dire « check and balances », mais c'est quand même le mot international pour cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de pouvoir et de contre-pouvoir contre lesquels le suffrage universel ne peut rien. Ceci passe par les institutions indépendantes, au premier rang desquelles une banque centrale indépendante. Ceci passe par le poids du droit et la reconnaissance de principes du droit qui sont en surplomb de nos règles législatives, de l'arsenal législatif, et qui a abouti à une révolution, à mon avis, en 2008, par l'introduction devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, sur lesquelles, je sais, certains d'entre vous sont très réticents, mais dont moi, démocrate, j'étais un ardent partisan. Évidemment, ce clivage républicain-démocrate se double d'un clivage nationalisme-internationalisme. Les républicains sont plus nationalistes, les démocrates sont beaucoup plus fédéralistes, et on y retrouve l'Europe des nations face à l'Europe fédérale, on y retrouve les débats inlassables à un moment donné sur l'euro, dont d'aucuns désespèrent encore de le voir exister si clairement, et évidemment sur l'acceptation d'une institution supranationale comme l'est la Commission de Bruxelles, en charge de l'intérêt général de l'Union, intérêt général qu'un républicain ne reconnaîtra jamais, mais qu'un démocrate, évidemment, acceptera et fera sien. Le thème qui est derrière, c'est la dépossession du peuple et du suffrage universel par une construction concoctée par une espèce de sociologie imprécise qu'on appelle les élites. Et un exemple très intéressant de ce point de vue a été donné au moment de l'enchaînement entre le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne qui a été signé à la fin de 2007. De quoi s'agissait-il en fait ? Le traité de Lisbonne, dont le président de la République de l'époque avait annoncé le principe dans sa campagne électorale, consistait à remettre en chantier, peu ou prou, par la voie parlementaire, ce que le référendum avait refusé. Et on était là au fond, dans le fond du débat. Y a-t-il une seule représentation qui est l'exception, qui est le suffrage universel direct à travers le référendum, et doit-on considérer que la représentation élue au suffrage universel, donc indirect, n'est pas de même rang et doit donc s'y soumettre? C'est un débat dont on voit aujourd'hui à nouveau dans un pays qui a eu la fâcheuse habitude de penser que le référendum français était un produit d'exportation, c'est-à-dire le Royaume-Uni, qui se passe aujourd'hui au sein même de la Chambre des communes, qui est de savoir si cette Chambre des communes, majoritairement hostile au Brexit, est prête, en louvoyant et en trouvant des modalités empiriques, à s'opposer à ce qu'a été, il y a 2 ans, dans un univers différent, le résultat du référendum. Et donc, de ce point de vue, on arrive à lire, même chez des auteurs aussi éminents que mon ami Marcel Gauchet, sur lequel je reviendrai, le fait que la matrice du populisme, c'est le fait qu'en 2007, on a claqué la porte au nez du peuple en passant par la voie parlementaire pour adapter le traité de Lisbonne. Ce qui me paraît un raccourci qui fait fi de beaucoup d'autres éléments de la vie de notre société. Au fond, c'est un débat dont nous allons voir in vivo une nouvelle manifestation à l'intérieur du jeu italien. Et la séquence de la semaine dernière, c'est-à-dire l'acceptation qu'au titre de ses pouvoirs constitutionnels, le président de la République italienne ne nomme pas un ministre, a donné lieu, débat républicain-démocrate, a donné lieu à une montée aux extrêmes, en particulier du mouvement Cinque Stelle, sur le thème « c'est une atteinte au suffrage universel ». Comme on est en Italie, ça a assez vite tourné à la Commedia dell'arte, puisque M. Di Maio a demandé à être reçu par le président Mattarella par la porte de service et a finalement trouvé au président Mattarella les vertus démocratiques que 48 heures avant il n'eut connaissait plus. Mais il n'empêche qu'on était dans le cœur de ce débat-là, qui est le suffrage universel, a-t-il tous les droits ? Et c'est évidemment un problème qui va de pair avec l'explosion de ce qu'on appelle désormais les démocraties illibérales, pour l'instant à l'est de notre Europe, pour l'instant, en se demandant si nous ne verrons pas une démocratie un peu illibérale tout près de chez nous, de l'autre côté des Alpes. Or, ce qui est très frappant dans le fonctionnement des démocraties libérales, c'est qu'elle considère que le peuple s'exprime avec 35%. En Pologne, le parti au pouvoir, qui démonte méthodiquement les institutions, les check and balances, au mépris du droit, en fait n'a obtenu que 35% des voix. Et donc, c'est d'une certaine façon une espèce de captation du principe du suffrage universel obtenu qui montre parfois certaines arrière-pensées. Alors, cette pensée-là, dans sa version la plus sophistiquée, elle a été portée par, et elle est portée par des intellectuels reconnus, très reconnus. Le plus construit est Marcel Gauchet, le plus connu est Michel Onfray. Et si on s'interroge sur les motivations de l'un et de l'autre, au-delà de la réflexion intellectuelle, on trouve à mon avis quelque chose de très intéressant qui leur est propre, qui est qu'ils pensent que issus des partis les plus modestes de la population française, eux font corps avec le peuple. Et je pense que, d'une certaine manière, l'identité profonde, personnelle, de fils de paysans de l'un et de l'autre, les amène à considérer que, faisant corps avec le peuple, ils comprennent mieux les tenants de l'équation que ceux qui ont été pris dans les processus d'embourgeoisement à la française. Ce n'est pas une boutade, je pense que, pour bien connaître l'un d'entre eux, c'est en effet totalement fondamental. Et ça nous rappelle qu'il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent et qui se nomme les racines sociales. Alors, pour eux, le peuple, c'est quoi ? Au fond, le peuple de Gauchet et le peuple d'Onfray, c'est la France des campagnes de la Troisième République, devenue la France périphérique des sociologues à la mode. Tout le reste n'existe pas. N'existent pas grandes agglomérations, quelle que soit leur importance, et existent évidemment encore moins les banlieues où apparaissent des composantes d'un peuple qui n'est pas tout à fait le peuple de l'époque de Thiers. Il n'y a pas de meilleure lecture quand même de ce problème et de sa dimension psychologique que le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle française. Et j'en prendrai un exemple d'une région que je connais bien. Emmanuel Macron a fait à Bordeaux, comme à Toulouse, 90% des voix. À mi-distance, dans le Lot-et-Garonne, département que je connais très bien et que d'aucuns connaissent aussi ici, le Lot-et-Garonne n'est pas, pardon de cette vulgarité, le trou du cul du monde. C'est à une heure d'autoroute de villes qui sont insérées dans le jeu mondial, Toulouse, capitale d'Airbus. Dans le Lot-et-Garonne, pas à Agen, mais dans le Lot-et-Garonne, Marine Le Pen est en tête. Donc, il est clair qu'il y a dans ce rapport entre une France et l'autre une dimension psychologique extrêmement forte. Et sans aller aussi loin, je narrai ce petit fait à un homme politique que beaucoup connaissent, qui est Jean-François Cotepé, qui me disait « Mais c'est pas la peine d'aller si loin. À Meaux, ville où il y a des quartiers en difficulté et beaucoup d'immigrés, Macron a fait 75%, à peine les Meaux, à 8 km de Meaux, où il n'y a aucun immigré, Marine Le Pen est en tête. » Et je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit ces dimensions-là, car à partir du moment où cette césure prend un aspect psychologique, ce ne sont pas de seuls moyens matériels, ce n'est pas le fibrage du pays en haut débit, d'un coin de l'hexagone à l'autre, qui suffira à régler le problème. Alors, ce qui est dit par des intellectuels reconnus se mêle assez vite avec ce qui est souvent le propre des élites académiques, pardon pour les membres éminents qui sont ici, qui est l'abyssale inculture économique. Parce que quand vous mettez cette vision du peuple en résonance avec une vision économique très surprenante, je veux dire, quand on entend ces grands intellectuels parler d'économie, on se pince, on arrive à la construction qui est les élites, en fait, ne tiennent pas compte du peuple. la Banque centrale est l'expression de leur domination. La politique d'austérité est la traduction d'une tutelle envahissante allemande et l'euro n'est que le visage camouflé du mark. Et après, évidemment, on peut, quand c'est fait avec moins de distinction que par d'aucuns, on peut déraper dans le nationalisme, dans l'ignorance du monde, dans l'ignorance des rapports de force et au fond dans une vision qui leur fait rêver d'un retour au traité de Westphalie, espérant qu'à nouveau, la France serait, pas avec la Suède, ça serait difficile, la garante de l'Europe. Donc, tel est en réalité le contexte dans lequel nous nous mouvons. Qu'est-ce que l'on peut opposer à ce mythe du peuple qui tienne la route et qui soit cohérent ? Les classes sociales, elles ont existé. À mon avis, plus que le peuple, mais elle n'existe plus vraiment, et que, d'une certaine manière, la domination écrasante de la classe moyenne a disparu. Le peloton s'est étiré, et c'est une fragmentation sociale. Donc, on ne peut pas répondre par cela. Que peut-on opposer ou constater ? Le communautarisme, oui, il existe, à l'évidence, grandissant, mais on ne peut pas prendre appui sur lui, pour combattre le mythe du peuple. Il est peu conforme, et c'est bien notre problème, on y viendra peut-être dans le débat, à la tradition française et républicaine. Donc, est-on capable d'opposer une nouvelle conception contemporaine de la nation, c'est-à-dire d'une nation ouverte ? L'approche de Renan, le plébiscite quotidien n'a plus lieu d'être, et il suffit de se balader dans certaines parties des grandes villes, voire des banlieues, pour penser qu'il n'y a pas de plébiscite quotidien. Alors allons à l'autre extrême. La fédération d'États-nations, qui est la reconnaissance des États-nations, à laquelle Jacques Delors voulait assimiler l'Europe. D'une certaine manière, il n'y a rien de plus illusoire, car je ne sais plus si nous sommes un État-nation. Mais en réalité, les autres ne le sont pas. L'Allemagne n'est pas un État-nation, c'est un peuple-nation. L'Italie n'est pas un État-nation, c'est une langue-nation. Donc l'idée un peu très française de penser que chacun de nos pays était un État-nation, à l'instar de ce que nous sommes, c'était au fond l'éternelle vision de l'Europe qu'exprimait ce mot merveilleux du général de Gaulle, l'Europe, le levier d'Archimède de la France. Comme si l'Europe était faite de France additionnée que nous dominions très largement. Donc, ce n'est pas une conception très contemporaine de la nation qu'on peut mettre en exergue. Ce n'est pas non plus l'édification comme un mythe des services publics faisant des hommes égaux et libres, puisque telle n'est pas, et j'y reviendrai, la situation de l'école. Alors, peut-on dire on répond à ce problème avec l'ambition européenne ? Je crois qu'il y a un ou deux Européens aussi maladifs que moi dans cette salle, pas beaucoup plus, en tout cas j'en ai reconnu deux, mais l'ambition européenne n'est pas en soi la réponse à ce déficit d'identité ou d'identification intellectuelle. Dire, quand on dit répondons à la montée du mythe du peuple par le rêve européen, c'est très sympathique, mais on tape à côté. Donc, il y a, me semble-t-il, un déficit qui explique cette expansion et cette domination de, entre guillemets, nos ennemis. Comment peut-on reprendre la main ? Je me suis permis, dans un dernier petit bouquin, de dire que je me demande si la réponse au populisme n'est pas le populisme mainstream, qui est né en Espagne, à travers le mouvement Ciudadanos, et dont, à l'évidence, la campagne présidentielle et la démarche d'Emmanuel Macron est une illustration. Qu'est-ce que le populisme mainstream ? C'est un populisme au sens où il dit « je préfère la société civile à la classe politique, je refuse le jeu des partis classiques, j'essaye de faire, entre guillemets, comme on dit maintenant, du dégagisme, mais je le fais » au profit d'une pensée mainstream, c'est-à-dire une défense acharnée de la construction européenne et de l'économie sociale de marché. Et je me demande si, et d'ailleurs la victoire très probable aux prochaines élections espagnoles de Ciudadanos montrera quand même que tout ceci représente ou a pris corps dans deux pays qui ne sont pas négligeables quand on fait leur addition dans le jeu européen. D'une certaine façon, en Italie, on ne peut pas exclure que Cinque Stelle revienne ou soit progressivement amené à aller sur ce terrain-là. Mais si on est partisan du populisme mainstream, cela veut dire deux choses. Mainstream, oui, parce que c'est notre identité, cercle de la raison, évidemment. Mais populisme, parce que on accepte de considérer que les institutions telles qu'elles sont, notre mode de fonctionnement a trouvé certaines limites. Alors, ceci amène évidemment à l'autre question dans la haine qui nous est vouée, qui est peut-on avoir raison de nous en vouloir ? Et je ne pense pas que ce soit pour celle des populistes, mais il y a de vraies bonnes raisons de nous en vouloir. Je me souviens, ayant participé à une délégation en Chine, au sein de laquelle il y avait quelques personnes importantes et qui nous avait valu d'être reçues au début de notre voyage par le président Xi. Et le président Xi nous a dit, plutôt rigolard, on était une vingtaine, « Vous, les Occidentaux, vous pensez qu'il y a un seul mode d'organisation de la société, c'est le suffrage universel. Mais vous savez, il y en a deux autres. Ça s'appelle l'histoire et la compétence. » Et là, il a souri et il a dit, « Je crois que nous avons les deux. » Alors, peut-être devons-nous nous poser nous-mêmes la question, c'est avons-nous pour légitimité l'histoire et la compétence ? Mais je voudrais rajouter, au nom du pluralisme démocratique, un troisième critère, à mon avis clé, et qui n'est pas aujourd'hui rempli et qui est de moins en moins rempli, notre représentativité. La compétence, à coup sûr. La classe politique est de grand niveau. La classe politique française est vraiment d'un niveau exceptionnel. Y a-t-il beaucoup de pays du monde dont les deux dirigeants, l'un se réclame d'un philosophe et l'autre écrit un bouquin sur les bouquins qu'il a lus ? C'est sans équivalent, même dans de très très grands pays. Compétence économique, le vrai test n'est pas de nous juger entre nous pour dire qu'est-ce qu'on est bon. Le vrai test, c'est regarder les grandes multinationales et où on s'aperçoit que la part des dirigeants français est largement supérieure à la part de la France dans le PIB mondial. Donc, il est clair que nos élites économiques sont de très bon niveau. Nos élites technocratiques, comme d'autres ici étant issues de cet univers-là, j'ai tendance à penser qu'elles restent décentes. Après, nos élites médiatiques, très villageoises. Très villageoise, parce qu'il n'y a pas plus villageois que les médias français, moins ouverts au monde et narcissiques. Dernier élément, plus important, nos élites intellectuelles. La reconnaissance internationale qui leur est attribuée est en deçà de ce qu'elle fut. La France a trop longtemps ignoré qu'aux États-Unis, Fernand Braudel était un mythe vivant. Michel Foucault l'était, mais Derrida aussi. Et que leur impression sur la scène intellectuelle américaine était sans commune mesure, en tout cas pour Braudel, avec son impression sur la scène intellectuelle française. De ce point de vue, évidemment, il y a eu une régression, elle est indéniable. Nos élites littéraires, bon, nous avons eu la chance d'avoir eu deux prix Nobel de hasard, mais ne pensons pas quand même que la littérature française, très villageoise à l'instar des médias, indifférente à la société civile, ce n'est ni Amis, ni Jonathan Coe, ni Ian McEwan, qui au moins s'accroche à la vie en société, est-ce qu'elle était. Notre littérature est comme notre cinéma narcissique. Et enfin, qu'en est-il de nos élites philosophiques ? Oh, je remonterai pas à Merleau-Ponty. Je ne dis pas Sartre et Merleau-Ponty, parce que Sartre provoquerait quelques réactions. Mais Merleau-Ponty est beaucoup plus passe-partout à certains égards, et donc plus unanimiste. Aujourd'hui, les philosophes reconnus dans le monde ne sont pas français. Il faut le savoir. Que Michel Onfray soit désespéré, mais Habermas a une autre présence internationale que lui. Donc, La compétence comme signe de légitimité inégale suivant les domaines, mais encore présente. L'histoire, j'en parle même pas. Évidemment, nos élites portent, comme les élites britanniques, sur leurs épaules, un vrai poids d'histoire. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'en réalité, nous ne sommes plus représentatifs du pays. L'endogamie a continué à se développer, endogamie dans laquelle chacun d'entre nous vit. L'ascenseur social a régressé. Il y a moins de gosses aujourd'hui à l'école polytechnique de milieux modestes qu'il y en avait il y a 50 ans. La diversité, pour utiliser ce mot code, a d'une certaine façon peu progressé à l'intérieur des grandes institutions. Le mythe du préfet musulman est un aveu d'échec en soi, le préfet musulman. Évidemment, nous n'avons pas la pratique britannique, à cet égard impressionnante, qui, d'une certaine manière, a traité ces minorités sur le territoire britannique comme l'Empire britannique avait traité les Indes. Et il est clair que, pour ce qui est de l'insertion des groupes constitutif de la diversité dans les systèmes de pouvoir, la tradition impériale britannique est beaucoup plus efficace ou a donné des habitudes beaucoup plus efficaces que la nôtre. Enfin, l'objet n'est pas aujourd'hui de parler de la tradition impériale britannique, mais je ne sais pas, je pose à cette assemblée imminente une question que je pose souvent, avec combien de fonctionnaires civils l'Angleterre a contrôlé l'Inde ? Vous pourrez faire un quiz, vous verrez. C'est quelque chose de très étonnant. Donc, nous ne sommes pas représentatifs. Nous ne sommes représentatifs ni socialement, ni culturellement, ni ethniquement, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Or, ce n'est pas le fait de la mondialisation. Reculer dans le classement PISA de l'enseignement supérieur, ce n'est pas la globalisation qui y conduit. C'est tout simplement nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre incapacité à nous adapter à un nouveau contexte. À partir de là, quelles sont, et je t'en terminerai par là, les questions ouvertes ? Une question devant laquelle il faut quand même accepter de se débarrasser de nos arthritismes, qui est la discrimination positive. Et j'en prendrai un exemple. Le monde de l'entreprise, à la suite d'une loi un peu concours de circonstances, vit sous l'égide d'une loi, initiée d'ailleurs par Jean-François Copé, l'homme politique que j'ai cité, avec la règle depuis cette année des 40% de femmes dans les conseils d'administration. Pour une fois, il y a un quota en France. Ce quota va aboutir à des effets considérables. Qu'est-ce qui s'est passé, ceux d'entre vous qui ont l'habitude des conseils d'administration ? Pour remplir le quota au début, on a dû prendre des femmes qui, dans l'échelle de l'entreprise, n'étaient pas encore très haut. Elles étaient à N-2, N-3. Donc, elles n'osaient pas, évidemment, contester la diva qui présidait le conseil. Puis maintenant, on n'est plus à N-3, on est à N-2, puis on est à N-1. Et en réalité, on est en train d'avoir ouvert le jeu considérablement. Et donc, d'une certaine manière, la discrimination positive, l'acceptation de quotas, fussent-ils temporaires, est quelque chose contre lequel nous devons arrêter de lutter, comme nous le faisons avec beaucoup, beaucoup de poids du passé. Sujet d'une imminente, évidente actualité, l'éducation dans les zones d'exclusion. Alors, la France n'est pas les États-Unis. Nous ne sommes pas prêts pour le busing, mais c'est oublier ce que les États-Unis l'ont fait. C'est-à-dire que les États-Unis ont fait ce que aurait été aujourd'hui le transport scolaire de gosses de Neuilly pour les amener à Saint-Denis et de gosses d'Aubervilliers pour les amener à Boulogne. Bon. Aucun homme public ne proposera cela. Mais ça montre quand même à quel point, en termes d'enseignement dans les quartiers en difficulté, nous sommes loin du compte. Bien sûr que c'était très bien de diviser les classes par enseignants dans les lycées des EP et des LEP par deux. Mais ce n'est qu'un tout petit pas, un tout petit sujet par rapport à l'ampleur de la question qui nous est posée. Troisième question, évidemment, qui est en surplomb de celle-là, qui est le principe fondateur de notre État-providence. Si nous ne passons pas de l'égalité à l'équité, nous ne pourrons jamais rétablir une forme de représentativité des élites et d'ascenseur social et d'ouverture démocratique. L'équité, c'est très simple, c'est de donner ou de faire jouer la redistribution, non au profit d'une classe moyenne extrêmement imprécise dans ses contours, mais au profit d'abord de ceux qui en ont le plus besoin, donc indirectement aux dépens de la classe moyenne. Mais c'est un... Alors, l'équité progresse très, très, très marginalement. Certaines aides sociales sont liées au quartier, d'autres sont liées aux revenus. Mais il n'empêche que c'est un sujet qu'on ne prend pas de front, qu'on ne prend pas de front dans le domaine éducatif et qu'on ne prend pas de front non plus dans le domaine de la santé. Une société qui rembourse de la même manière le rhume attrapé sur les pentes de Courchevel par un gosse de dirigeant et le rhume attrapé dans un immeuble délabré des banlieues est une étrange société. Elle est égalitaire, elle n'est pas équitable. Et en matière d'éducation, le problème est le même. Et j'en voudrais un exemple sur une idée qui m'est chère depuis longtemps et dont je n'ai réussi à convaincre aucun des dirigeants de ce pays. Dans ce pays d'aristocratie démocratique, l'enseignement technique ne sera reconnu que quand on pourra commencer dans l'enseignement technique et terminer au corps des mines. C'est-à-dire quand il y aura des quotas dans les grandes écoles réservés à un concours issu de l'enseignement technique. Et pour finir sur ce sujet très illustratif, je vous raconterai une anecdote à elle seule très révélatrice. Le hasard de la vie faisait que j'émettais cette idée devant François Mitterrand, qui me dit « Ah, pour une fois, je suis d'accord avec vous. » Et je préside, je ne sais plus quoi, le bicentenaire de l'IX la semaine prochaine. C'est une très bonne idée. Écoutez-moi, je vais annoncer un quart d'élèves à l'école polytechnique pour les gosses issus progressivement, avec concours de la filière technique. Bon, et j'écoute le discours de Mitterrand. Et il a annoncé l'accroissement d'un quart des promotions. Et François Mitterrand m'appelle et me dit « Alors, vous êtes content pour une fois de moi ? J'ai annoncé ce que vous vouliez dire. » Et je lui réponds « Monsieur le Président, vous avez augmenté la voie générale d'un quart, mais ce n'est pas destiné à la voie technique. » Et là, Mitterrand me dit « Écoutez, à l'âge qui est le vôtre, vous devriez quand même savoir ce qu'est le poids des lobbies. » Je vous remercie.